Le journal Frédéric Barrère, bonsoir.
Bonsoir à tous. La France confinée à partir de ce soir pour la troisième fois, mais les Français prennent l'air en ce week-end de Pâques. Du monde sur les plages, réservation de dernière minute dans les hôtels du littoral et rappel à l'ordre du gouvernement. Tolérance ne veut pas dire départ en week-end autorisé. Reportage dans un instant à Noirmoutier. Les Français circulent, le virus également. Les campagnes ne sont pas épargnées. Niveau d'alerte inquiétant des contamination dans la Sarthe. Polémique à Poitiers entre les élus verts et le gouvernement. La maire Europe Écologie Les Verts, Léonore Monconduit, coupe les subventions aux aéroclubs. L'aérien, dit-elle, ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Et lucubration autoritaire et moribonde, répond le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Notre rendez-vous du samedi 19h, Ma vie connectée, Christine Siméon, consacrée ce soir aux auteurs de doublage de films, de Matrix aux Simpsons. Le temps pour demain, grisaille au nord, ciel instable dans le sud-est. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal. Et à l'instant, en football, Lille s'impose 1-0 à Paris et reprend 3 points d'avance en tête du classement.
France Inter.
Le message, visiblement, est mal passé. Partir en week-end n'est pas autorisé. Tolérance ne veut pas dire s'échapper pendant 3 jours et revenir après le week-end mardi. Et pourtant, beaucoup de Français profitent de ce week-end de Pâques, ensoleillé, pour prendre une bouffée d'oxygène. Résultat, le confinement démarre aujourd'hui dans la confusion. Les Français circulent, le virus aussi, et Pâques risque de devenir un week-end à haut risque sanitaire. Il y a du monde sur les plages, il y a même foule. Par exemple, à Noirmoutier, tous les hôtels sont complets, avec beaucoup de réservations de dernière minute. Reportage à Noirmoutier en Vendée, Victoria Coussa.
Le balai des valises dans le hall et les nombreux appels.
Bonsoir. Alors malheureusement, je n'ai aucune disponibilité, tout est complet.
Patrick, patron de l'hôtel La Villa en Île, a l'impression de revivre les week-ends de Pâques d'avant l'épidémie.
Les personnes ont bien entendu le message de la tolérance du dernier week-end. On a 22 chambres et les 22 chambres sont louées jusqu'à lundi midi.
Dans le centre-ville un peu plus bas, difficile de se garer. Les passants déambulent dans les rues commerçantes, glace à la main ou plateau de fruits de mer dans les bras. Week-end entre copines de dernière minute pour Brigitte qui vit en Indre-et-Loire.
Quand nous avons vu que c'était à partir de lundi, ah ben voilà, on a dit c'est vraiment, faut pas le louper ce week-end-là. Et nous sommes venus prendre un grand bol d'air, de soleil, avant de profiter.
En bord de mer, dernière balade pour Cédric, habitant du sud de la Vendée.
Les petites dernières vacances express avant de rester plus raisonnable pour les 4 semaines qui suivent.
Un semblant de vacances aussi pour Marjorie et ses enfants.
C'est pour l'instant, on va se dire, une dernière, en espérant pouvoir repartir cet été, mais après sans être sûr. Donc pour le coup, on profite à fond des 3 jours en espérant que ce soit pas le dernier de l'année. Quoi.
Les commerçants qui ferment ce soir espèrent rouvrir avant l'été pour les ponts du mois de mai.
Victoria Coussa, et le gouvernement a donc dû faire un rappel aux règles du confinement. Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, a précisé cet après-midi ce qui est autorisé ou non en matière de déplacement, même si les policiers ont la consigne de ne pas contrôler les déplacements de population jusqu'à mardi. Marlène Schiappa avec Valentin Dunat.
L'idée ce week-end, ce n'est pas du tout évidemment de dire aux gens on peut partir en week-end et revenir. C'est de dire que le gouvernement prend des décisions pragmatiques. Lors du premier confinement, certains ont souhaité aller se confiner ailleurs. Et là, l'idée était simplement de permettre aux Français et aux Françaises de s'organiser et de leur dire, voilà, il va y avoir un temps où les écoles vont être fermées, les collèges, les lycées. Et donc, si vous souhaitez passer ce temps de fermeture dans un autre endroit, c'est possible et on vous laisse pour cela le temps du week-end. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se déplacer le moins possible et vraiment dans le respect de ces motifs impérieux. Alors partir en week-end, ça n'est pas autorisé et donc il y a des forces de l'ordre qui sont déployées. L'idée, c'est évidemment, oui, de contrôler que ces mesures, elles soient bien respectées. Je crois que chacun a compris que l'idée, ça n'est pas de dire « vous pouvez partir en week-end et revenir ».
Voilà, Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, qui était en déplacement cet après-midi à l'église Saint-Sulpice à Paris, a également annoncé la mobilisation de 850 policiers et de plus de 1000 militaires pour protéger les lieux de culte durant ce week-end de Pâques. Et si le coronavirus se transmet plus facilement dans les métropoles à forte densité de population, les campagnes ne sont pas épargnées. Le coronavirus peut se propager à toute vitesse dans les zones rurales moins peuplées. Bonsoir Béatrice Duguay.
Bonsoir.
C'est C'est le cas dans une vingtaine de communes de la Sarthe où le taux d'incidence est supérieur à 1000.
Alors certes, quelques cas dans une commune de moins de 1000 habitants, ça donne tout de suite forcément un taux d'incidence élevé. Vallon-sur-Gers, par exemple, à une dizaine de kilomètres à l'ouest du Mans, presque 900 habitants, 9 cas de Covid ces temps-ci, raconte Dany Paris, le maire.
Je pense que ça peut venir de tout le monde et malheureusement, on est surpris. Ça nous tombe dessus, quoi. Dans notre conseil municipal, on a été mis cas contact pratiquement aussitôt. Et après, on est passé positif, voilà, et on ne sait pas d'où ça vient.
5 élus positifs, 2 ont fini à l'hôpital. 5 cas déclarés à juillet, 470 habitants entre Le Mans et Alençon. Prudence de Sioux, pourtant, du côté des administrés, garantit Francis Cantillon, le maire.
Même si on habite en milieu rural, nous faisons attention de ne pas nous regrouper, même à titre personnel. Nos boulangers locaux se plaignent des pâtisseries avec des 6, 8, 10 personnes, ils ne rentrent plus. Ils sont sur des parts surtout individuelles ou de 4 personnes.
Les chiffres d'affaires ont connu des jours meilleurs, oui, dans ces communes où quasiment tout le monde se connaît et où les cas sont vite identifiés, reconnaît Christophe Bourdet, le boulanger épicier de Sémur-en-Vallon, moins de 400 habitants, moins de 450 habitants, à une trentaine de kilomètres du Mans.
On sait forcément qui c'est, mais bon, ça, oui, effectivement, c'est des gens, une personne qui allait boire le café tous les matins chez des voisins, voilà, et bon, bah, du coup, ça fait des cas contacts, mais bon, c'est tout, hein.
Alors, il suffit d'une famille touchée pour faire grimper les proportions, mais c'est malgré tout un signe des temps. À Loupland, 1500 habitants à moins de 10 km du Mans, les cas se sont multipliés depuis quelques semaines. Enseignants positifs, puis une classe fermée. Désormais, toute l'école est fermée depuis 4 jours.
Béatrice Duguay, merci. Et décidément, en Allemagne, les contraintes sanitaires passent mal. Jour de manifestation annoncé à haut risque à Stuttgart aujourd'hui. Plusieurs milliers de personnes, une foule compacte, sans masque, venue de toute l'Allemagne, se sont retrouvées pour protéger. Protester contre les restrictions liées à la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Les manifestants dénoncent une dictature sanitaire et la police craint des débordements. La manifestation est toujours en cours ce soir et elle crée la polémique en Allemagne. Sur place, Hugo Flotatalon.
Polémique déjà parce que le défilé de ce samedi a été autorisé par la ville de Stuttgart, incompréhensible pour beaucoup en pleine pandémie, et surtout après les débordements violents des manifestations du même genre les dernières semaines dans d'autres villes. Ce samedi, 2500 personnes étaient attendues, les manifestants étaient beaucoup plus. Dans leur viseur, toujours, comme ils racontent dans les rues et sur les réseaux sociaux, les mesures de restriction face à la pandémie dans le pays.
Je
ne suis pas prêt à porter un masque face à la terreur que veut nous imposer ce gouvernement, raconte cet homme qui dit ne pas vouloir entendre parler non plus de vaccins. Alors le mouvement des Querdenker a des soutiens, mais les critiques se font de plus en plus fortes dans toute l'Allemagne. Beaucoup s'inquiètent notamment de la présence, voire de la mainmise dans certains défilés des franges les plus radicales de l'extrême droite. En plus, ce week-end de Pâques, le gouvernement a recommandé aux Allemands de rester chez eux, mais des milliers de personnes défilent sans masque et sans distanciation sociale, sans que la police n'intervienne, s'énervent les opposants. Ils ont d'ailleurs organisé plusieurs contre-manifestations ce samedi, criant « nazi » dehors au passage du principal cortège. Pas de quoi arrêter les manifestants anti-restrictions. Rassemblés par milliers devant une scène ce soir, ils continuent à chanter sans masque pour la paix, la liberté et contre la dictature. Bonne, Hugo Flotatalon, France Inter.
France Inter. Frédéric Barrère.
Retour en France avec une déclaration qui choque et qui provoque une nouvelle querelle vive entre le gouvernement et les élus verts. Il n'est pas question de mosquée à Strasbourg, mais d'avion à Poitiers. Léonore Monconduit, la maire Europe Écologie Les Verts de Poitiers, a supprimé les subventions aux aéroclubs. L'aérien, dit-elle, ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué au transport, ancien pilote, dénonce des élucubrations autoritaires et moribondes, Élodie.
Tout commence lundi lors du conseil municipal, prise à partie par l'opposition qui dénonce l'arrêt des subventions aux aéroclubs, mettant notamment en avant le rôle éducatif de ces structures. La maire, Léonore Monconduit, se justifie et a cette phrase.
Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves dont on doit préserver les enfants en fait. Enfin, l'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui.
Quelques jours passent jusqu'à hier et ce tweet du ministre Jean-Baptiste Djebbari qui met le feu aux poudres sur les réseaux droite et extrême droite s'engouffre, dénonçant le dogmatisme des maires écolos. Sacha Houlier, député LREM de la Vienne, se dit lui aussi choqué par ces propos qu'il juge maladroits.
On n'a pas à dicter aux enfants les rêves qui sont les leurs. On sait que de tout temps et beaucoup ont cité Saint-Exupéry. Les enfants rêvent de voler, l'homme rêve de voler et l'humanité rêve de prendre les airs. Et donc de ce point de vue-là, oui, effectivement, c'est assez révoltant de pouvoir se dire que on va contrôler les consciences ou les aspirations de chacun.
Plus étonnant, Jean-Luc Mélenchon s'est aussi fendu d'un tweet. Coucou Poitiers, les rêves restent toujours libres, signé Icare, personnage mythologique mort pour avoir volé trop près du soleil. De son côté, l'entourage de la maire de Poitiers assume, oui, l'imaginaire des enfants d'aujourd'hui ne sera pas le même que celui d'il y a 50 ans.
Élodie Forêt, du football avec le match au sommet en Ligue 1 cet après-midi entre le PSG et Lille et la victoire de Lille 1-0 au Parc des Princes. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Frédéric.
Alors Lille est donc premier au classement de Ligue 1 mais avec une vilaine fin de match et deux cartons rouges.
Oui, avec une fin de match qui effectivement a vu de l'énervement, notamment de Neymar qui a été expulsé. Un coup franc avait été sifflé en sa faveur juste avant, mais après une altercation avec le défenseur lillois Diallo, le Brésilien est sorti sur un carton rouge donné par Monsieur Bastien. Carton rouge aussi pour le défenseur lillois, alors que cette équipe du Paris Saint-Germain essayait de revenir dans un match qu'elle a finalement perdu 1-0 face à cette équipe de Lille dans le choc entre les deux premiers du classement. Un but marqué par Jonathan David, le Lillois, à la 20e minute en première mi-temps. Et il faut signaler quand même le super match de la défense lilloise, notamment regroupé autour de son gardien Mike Maignan, qui a sorti plusieurs ballons chauds. Il faut signaler aussi l'activité de Neymar, qui retrouvait aujourd'hui une place des tutileurs et qui a tenté des choses, mais qui n'a pas été en réussite sur ce qu'il a tenté. Et puis, le match en demi-teinte de Mbappé avant le déplacement de Paris Saint-Germain au Bayern mercredi prochain. Ça n'est pas bon. Et en plus, cette équipe du Paris Saint-Germain, au moral, elle prend un coup parce qu'elle a désormais 3 points de retard sur Lille au classement de la Ligue 1.
Jean-Pierre Blimeau, merci en direct du Parc des Princes. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméone et Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Et vous allez nous parler ce soir des auteurs de doublage au cinéma. On ne les connaît pas bien et pourtant ils traduisent et écrivent les dialogues des films d'Harry Potter, de Buzz l'éclair pour les enfants, ou bien d'Iron Man ou encore des héros de Shakespeare au cinéma. Et c'est une exposition en ligne qui permet de les découvrir avec de nombreuses anecdotes sur les coulisses d'un métier de l'ombre, Christine.
Alors, écoutez d'abord ceci, s'il vous plaît.
Nous sommes riches, Vanda.
Pas qu'un peu.
Je parie que ces deux semaines avec moi figureront parmi les meilleurs souvenirs de toute ta vie.
Je te le fais pas dire.
D'accord. Je suis très déçu, Georges. Qu'est-ce que le pas? Je ne sais même plus ce qu'il faut faire de nos jours pour obtenir la confiance des autres.
Ah, ferme.
C'est vrai, quoi, on me prend toujours pour une poire.
Tais-toi et pense. Où a-t-il pu les mettre?
Alors, ceci est un extrait du film en version française, Un poisson nommé Vanda, une comédie policière culte que vous avez peut-être aimé, Frédéric. Cette version française est l'œuvre de Philippe Vidcock, c'est l'un des auteurs de doublage les plus actifs en France. Et dans ce film, il a transformé la réplique suivante que vous allez nous donner.
He's so dumb that he thinks the Gettysburg address is the place where Lincoln lives.
Ce qui veut dire, il est tellement bête qu'il pense que Gettysburg address est une adresse du président Lincoln, là où il habitait. Et en fait, pas du tout, c'est le nom d'un de ses discours les plus mémorables. Alors probablement que cette référence ne nous parle pas à nous français. Vidcock a donc choisi de faire dire ceci au comédien.
Il est tellement idiot qu'il croit que Pearl Harbor est une actrice de cinéma.
Et on est bien loin de Gettysburg, du coup on atterrit à Pearl Harbor. Cette petite trouvaille, on peut la faire dans cette exposition en ligne sur le site de la SACEM que j'ai donc faite pour vous cette semaine. Elle a été conçue par Vanessa Bertrand et elle explique bien que l'art du doublage n'est pas celui de la traduction.
Nous ne sommes pas des traducteurs. Alors finalement, la traduction, j'ai envie de dire, ça va être le degré zéro de notre travail. Nous, dans ce cas-là, on travaille sur des traductions littérales, justement qui vont être le plus neutre possible. Alors, tant mieux après si on a des notions. En général, quand on fait ces métiers-là, c'est qu'on aime les langues. Donc, on a, même si on ne les maîtrise pas toutes, on peut avoir des notions de 5 ou 6 langues. Donc, on a cette traduction littérale. Et après, nous, une fois qu'on a accès au sens, on doit aussi se laisser imprégner par le jeu du comédien et justement par le point de vue du réalisateur, comprendre là où il veut nous emmener et faire en sorte que le texte soit un élément dramatique qui va aller dans ce sens-là.
Et après l'auteur de doublage, arrive le comédien de doublage. Bref, tous ces métiers centenaires sont à retrouver et sur franceinter.fr et sur le site de la SACEM.
Ma vie connectée, Christine Simone, à retrouver, comme vous l'avez dit, sur franceinter.fr. Merci. Merci. Le temps pour demain.
La météo avec les meubles Gautier. Dormir, manger, se détendre, ranger. Trouvez le meuble Gautier qui répond à vos envies dans nos magasins et sur gautier.fr.
Jean-Michel Golinski.
La météo souffle le chaud et le froid. Après une semaine estivale, hier les valeurs ont commencé à s'orienter à la baisse. Baisse qui va se poursuivre ces prochains jours avec de fortes gelées vers moins 3, moins 6 degrés mardi matin sur les régions du quart nord-est avec forcément des conséquences néfastes pour la végétation. Ce dimanche de Pâques, un temps sec pour la chasse aux œufs, largement baigné par un soleil rayonnant, toujours un peu plus retardé en matinée le long de la Manche par des nuages bas mais d'évolution favorable, et l'après-midi des ondées pourront se déclencher de la Provence à la Corse, le tout dans des températures en légère perte de vitesse. Lundi, installation d'un temps maussade par la moitié nord du pays, avec des flocons possibles au nord de la Seine dans la nuit de lundi à mardi, puis mardi en journée sur les régions de l'Est.
Jean-Michel Golinski de Météo France.